On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairois. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Canu. C'est l'émission Angle Mort ce soir qui commence, émission de critique sociale et d'expérimentation. Je laisse la parole à mes camarades qui vont vous dire de quoi ils vont parler ce soir.
Bonsoir. Pour ce qui me concerne, moi je vais parler d'Amazon à partir d'un article qui a été publié dans le Monde diplomatique. Voilà.
Et puis bonsoir, et puis moi si on a le temps.
Oui, on aura le temps.
Putain, bon ça commence bien. Non, je vais parler d'un petit bouquin qui s'appelle « Première mesure révolutionnaire » qu'on doit à Éric Hazan et Camus. Voilà, je vous en présenterai ce qui m'a intéressé et puis ce que j'en retiens.
Bonsoir, et moi je ferai une chronique auto et je vais parler du fait que l'ordre peut naître du désordre.
Ouh. Intéressant. En attendant, on va vous écouter une petite musique pour commencer, pour que vous soyez prêts à écouter toutes ces chroniques. Allez, à tout de suite.
We'll be right back.
toujours sur Radio Canu, vous êtes dans l'émission Angle Mort. On vient de s'écouter les Tugs avec Welcome to the Club. Et maintenant, Eric va nous parler un petit peu des conditions de travail chez Amazon.
Oui, voilà, donc on va parler du monde merveilleux de l'entreprise. J'aimerais en effet, et vous savez que ça me tient à cœur, instiller l'esprit d'entreprise à nos auditeurs récalcitrants, passéistes et un peu dogmatiques, il faut le dire. Pour cela, quoi de mieux que de parler de cette magnifique entreprise florissante qui est Amazon, fleuron de l'économie numérique, qui, depuis son entrée en bourse en 1997, a multiplié son chiffre d'affaires par 420, atteignant la coquette somme de 62 milliards de dollars en 2012. Amazon, dont le fondateur et PDG, monsieur Jeffrey Bezos, dit Jeff, propulsé autour de la 20e fortune mondiale, est d'autant plus apprécié de la presse qui l'a racheté pour 250 millions d'euros, ce qui est en fait 15% de sa fortune personnelle, donc ça va. Le vénérable quotidien américain The Washington Post, et donc il a été élu personnalité de l'année par le Times en 1999 et homme d'affaires de l'année 2012 par le magazine américain Fortune. Et pour donc présenter Amazon, en fait, je vais m'appuyer sur un article de Jean-Baptiste Mallet qui s'appelle l'article s'appelle Amazon, l'envers de l'écran, enquête dans les entrepôts du commerce en ligne. Et il est paru dans le journal Le Monde Diplomatique de ce mois-ci, en novembre 2013. Donc Jean-Baptiste Mallet est journaliste, auteur de l'enquête En Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes, qui est paru en 2013, et une enquête pour laquelle il avait travaillé comme ouvrier intérimaire dans un entrepôt français d'Amazon en novembre 2012. Donc Amazon, j'en avais déjà un peu parlé lors d'une émission passée en février 2013 par la lecture d'un texte qui avait été réalisé par l'Union locale de la CNT de Villefranche et qui posait déjà un peu le contexte des conditions de travail. Et je voudrais y revenir un peu plus en avant avec cet article. Donc Amazon, pour dire c'est quoi déjà, il y a peut-être des personnes qui ne savent pas. Donc c'est une multinationale de vente en ligne qui propose aux consommateurs d'acheter en quelques clics divers produits. Livres, DVD, CD, mais aussi balais brosses, motoculteurs, et de se les faire livrer sous 48 heures. Ces entrepôts se situent dans différents pays. On en trouve beaucoup en Allemagne notamment, puisqu'elle était choisie comme tête de pont de la firme en Europe. On en trouve aussi en France, à Montélimar notamment, à Saran, etc. Et un entrepôt a été ouvert il y a peu à Chalon-sur-Saône, à grand renfort de subventions publiques et sous les auspices de notre ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, qui était particulièrement actif pour que le projet se fasse. Donc je cite Jean-Baptiste Mallet, quel que soit le pays d'implantation, les entrepôts logistiques présentent une architecture et une organisation du travail similaire, situés à proximité d'échangeurs autoroutiers, dans des zones où le taux de chômage dépasse la moyenne nationale, ils sont placés sous la garde sourcilleuse de sociétés de sécurité. Et on ajoutera que en Allemagne, c'est de notoriété publique que certaines de ces sociétés de sécurité étaient en fait des repères de néo-nazis qui se fournissaient en termes de manière de s'habiller chez les marques prisées par les néo-nazis, donc Thor Steiner ou je sais plus quoi, enfin bon, bref. Donc je m'arrêterai pas ici sur les raisons techniques du succès d'Amazon, je passe aussi sur les effets pour le moins délétères d'Amazon sur le monde de la librairie, en termes de destruction d'emplois et de transformation des types d'emplois, donc ça vous pourrez le retrouver dans l'article. Je voudrais plutôt donc m'arrêter sur les conditions de travail. Donc, pour rappel, le travail chez Amazon est l'œuvre d'une main-d'œuvre qu'on va dire non qualifiée. Non pas que les gens n'ont pas de qualifiés, ils sont très bien, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle non qualifié, parce que ce qu'ils font, ça ne demande pas de qualification spéciale, qui sont recrutés au seul motif qu'ils coûtent actuellement moins cher que des robots, et a priori plus pour longtemps, parce que la firme investit justement beaucoup dans la mise en place de petits automates roulants. Et donc je cite l'article à nouveau. La profusion de produits proposés aux 150 millions de clients du site se matérialise dans les entrepôts abritant des forêts d'étagères métalliques où triment des ouvriers astreints au silence par leur règlement intérieur. Silence non pas pour protéger des secrets industriels, puisque les ouvriers n'y ont pas accès, mais pour taire l'extrême pénibilité des conditions de travail, puisque les accidents du travail sont très nombreux chez Amazon, chute, malaise, doigts coupés sur le convoyeur, syndrome d'épuisement, etc. Ces ouvriers, considérés comme des chapardeurs potentiels, subissent des fouilles minutieuses assurées par des vigiles. Ils passent par des portiques de sécurité lors de leur sortie définitive ou de leur pause, ainsi raccourcis par ce fastidieux contrôle qui génère de longues files d'attente. Amazon refusant de placer les pointeuses des entrepôts au niveau du point de fouille, des travailleurs de plusieurs centres de distribution aux États-Unis ont déjà lancé 4 poursuites judiciaires afin de lui réclamer le paiement de ces temps d'attente non rémunérés, qu'ils estiment à 40 minutes par semaine. Donc pour conjurer la géographie vertigineuse des kilomètres de linéaire, au milieu de cette formidable accumulation de marchandises, la technologie la plus moderne guide, contrôle et mesure la productivité de salariés accomplissant des tâches répétitives et éreintantes. Dans l'unité dite de production, les pickers, ce qui veut dire ramasseurs, guidés par leur scanner, arpentent les étagères. Afin de prélever inlassablement les articles, ils marchent plus de 20 km par prise de poste. C'est le chiffre officiel des agences d'intérim, mais les syndicalistes le contestent puisqu'ils l'estiment minoré. Et dès qu'une marchandise est extraite, un compte à rebours s'affiche sur le scanner, ordonnant aux travailleurs de prélever la suivante. En fin d'année, lors de la période de pointe dite Q4 pour quatrième trimestre, des équipes de nuit sont constituées et chaque entrepôt a massivement recours à une main-d'œuvre intérimaire afin d'expédier les commandes de fête. Durant cette période, explique M. Heiner Reimann, l'un des permanents du syndicat allemand Verdi, qui était détaché en fait en 2010 pour implanter une section syndicale à Amazon. Donc il explique le nombre de travailleurs durant cette période passe brusquement de 3000 à plus de 8000. Des intérimaires en provenance de toute l'Europe arrivent à Bad Hersfeld, en l'occurrence là où ils se situent, et sont logés dans des conditions terribles. Chômeurs donc espagnols, grecs, polonais, ukrainiens, portugais, parfois très diplômés mais victimes de la destruction de l'emploi dans leur pays, convergent en autocar, enrôlés par des agences d'intérim. L'Allemand Norbert Faltin, ex-cadre dans l'informatique brusquement licencié en 2010, a ainsi dû accepter de devenir du jour au lendemain ouvrier picker, donc ramasseur, intérimaire, à Bad Hersfeld. En plein hiver, j'ai logé pendant 3 mois avec 5 étrangers dans un bungalow normalement utilisé par des estivants et qui n'était donc pas équipé de chauffage. Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie, nous étions tous des adultes et nous dormions à tour de rôle dans le lit pour enfants. En France aussi, donc, les conditions de travail sont assez peu reluisantes. En 2011, notamment, le froid a frappé les salariés de l'entrepôt de Montélimar dans la Drôme, qui étaient obligés de travailler en parka avec gants, bonnets, etc., jusqu'à ce qu'une douzaine d'entre eux entament une grève et obtiennent finalement l'allumage du chauffage. Et non pas du chômage, comme je l'ai marqué sur mon... Voilà. Je cite, les cadences sont épuisantes, confie d'un ton grave Mohamed, ouvrier lui à Saran, et qui a réclamé l'anonymat. Et en contrepartie de ces cadences, qu'est-ce qu'on nous propose ? Du have fun, des tombolas pendant les pauses, des distributions de chocolat, des bonbons. Mais moi, je n'arrive pas à adhérer à l'idée de venir décharger des camions déguisés en clowns. En effet, selon les thèmes choisis par les managers, les salariés sont régulièrement invités à venir pointer costumés en sorcière ou en basketballeur.
Le management d'aujourd'hui.
Voilà. Pendant ce temps, notre productivité reste bien sûr enregistrée par informatique, poursuit l'ouvrier de Saran. Et ici, on touche à un autre point important, c'est qu'effectivement, il y a un enregistrement en temps réel de la performance des travailleurs, qui sont suivis par géolocalisation, en fait. Données qui sont ensuite utilisées pour faire des courbes, des historiques de rendement, et qui sont utilisées en définitive pour mettre en concurrence les travailleurs. Et c'est des données qui, notons-le, sont stockées par informatique à Seattle, donc stockage qui est illégal. On nous demande d'être des top performers, explique Mohamed, l'ouvrier à Saran. De nous surpasser, de battre sans cesse nos records de productivité. Depuis le mois de juin 2013, les managers nous font même faire collectivement des échauffements et des étirements avant nos prises de poste. Franchement. Donc, il y a aussi forcément une répression anti-syndicale très forte. En France, le 10 juin 2013, une centaine de salariés de l'entrepôt de Saran étaient en grève à l'appel de la CGT. Tous ont été convoqués individuellement le lendemain. Monsieur Clément Jamin de la CGT témoigne « Parce que je suis syndicaliste, j'ai été soumis à des fouilles arbitraires durant mon temps de travail. Je les ai refusées. On m'a alors demandé de m'asseoir sur une chaise, soi-disant le temps que la police arrive. Je suis resté assis 6 heures devant tout le monde et la police n'est jamais venue. Ils ont essayé de me faire le même coup le lendemain et le surlendemain. La CGT a déposé plainte. » Donc il y a aussi tout ce qui est invitation à dénonciation des collègues. Il est bien vu de dénoncer un collègue en train de discuter, par exemple, si on veut monter dans la hiérarchie et devenir lead, c'est-à-dire contre-maître. Autre témoignage, donc un jour se remémore un ancien manager d'Amazon en France. À un collègue qui m'interrogeait sur la fortune de Jeff Bezos, le PDG, j'ai répondu que cela me donnait envie de vomir. Le collègue m'a dénoncé et j'ai été rappelé à l'ordre pour avoir critiqué l'esprit Amazon.
Le chef.
Exactement. L'esprit Amazon, c'est Jeff Bezos. L'ambiance de travail est délétère, tout le monde se surveille et les intérimaires sont traités comme de la viande. Voilà, donc au final, je crois qu'on pourrait faire le lien avec les, aussi les transformations des politiques de l'emploi, j'en avais parlé lors d'une autre émission, mais par exemple des choses comme l'obligation d'accepter n'importe quel travail au bout de tel temps de chômage, etc. C'est-à-dire que là, on voit très bien qu'il y a certaines entreprises dont le modèle économique n'est efficace que, enfin, qui suppose en fait l'exploitation d'une main-d'œuvre à moindre coût, ayant pour fonction de réaliser des tâches répétitives et dégradantes. Dans ce contexte-là, Pôle emploi, c'est quoi ? C'est faire accepter ces conditions dégradées aux chômeurs. Et donc, c'est un cadeau aux entreprises qui font leur blé sur le chômage, qui profitent de la menace du chômage pour imposer des conditions de travail les plus dégradées et nocives. Donc là, on voit bien comment la crise en Grèce, en Espagne, au Portugal est une aubaine pour Amazon, parce qu'elle va fournir les esclaves nécessaires au fonctionnement du modèle, qui vont être envoyés dans une usine super loin de chez eux. Et pour terminer là-dessus, je voulais très vite m'arrêter aussi sur l'encart échappé à l'impôt, qui est aussi dans le monde diplomatique associé à cet article, qui nous apprend que par un savant échafaudage fiscal, l'essentiel des bénéfices de la multinationale échappe en fait aux impôts nationaux. Et donc en gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est que par exemple, pour le nouvel entrepôt qui a été créé à Chalon-sur-Saône, bah, l'État a subventionné, le conseil régional a subventionné pour l'ouverture de l'entrepôt. Avec l'idée que ça allait créer des emplois, mais bon, en tout cas, ça lui a rien rapporté, enfin, ça lui rapporte très peu en termes d'impôts à l'État. On voit aussi de quel type d'emploi on a affaire, et il faut annoncer, enfin, insister sur le fait que de toute façon, ces emplois à moyen terme devraient disparaître compte tenu des investissements massifs de la firme dans la robotisation des tâches. Voilà, donc le moins qu'on puisse faire, je pense, face à ça, c'est bien sûr de boycotter individuellement Amazon. Mais bien sûr, c'est pas suffisant. Enfin, le boycott individuel ne change pas grand-chose. Mais voilà, en tout cas, faut avoir conscience de ça. Je m'arrête là-dessus. On fait peut-être une pause.
On va faire une petite pause musicale.
Très bien.
Donc, on va s'écouter. Est-ce pas
Meaza.
Meaza, voilà.
Thank you.
toujours sur Radio Canu, l'émission Angle Mort. On vient de s'écouter Easpa Meaza avec You Stole My Life. Et maintenant, Natacha va nous présenter un petit livre qu'elle a lu.
Oui, alors, on l'a vu, hein, le capitalisme progresse, l'hiver aussi. Mais attention, après l'hiver vient toujours le printemps. Alors oui, bientôt les mauvais jours finiront. Et pour se préparer à l'arrivée du printemps, j'avais envie de vous présenter rapidement ce que j'ai retenu et ce qui m'a intéressé du petit livre paru aux éditions La Fabrique en septembre 2013, intitulé « Premières mesures révolutionnaires » et qu'on doit à Éric Hazan et quelqu'un qui se fait appeler Camo, c'est sans doute un pseudo. Éric Hazan, c'est... alors, quelqu'un qui a un peu plus de 70 ans. Il est notamment fondateur des éditions La Fabrique. Il est notamment aussi connu parce qu'il est l'auteur d'une histoire de la Révolution française. Est-ce qu'on peut en dire d'autres choses? Je ne sais pas. Enfin, c'est quelqu'un qui... Non, Eric, tu n'as rien à en dire, je te regarde. Je te lance des perches, tu vois. Tu m'as dit, je peux t'interroger.
Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Ça a l'air d'être quelqu'un qui s'inscrit plutôt dans la continuité des positions un peu situationnistes, qui a édité le fameux opuscule La Nation qui vient. Mais tu allais peut-être le dire, je ne sais pas.
J'allais le dire, mais ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave. Donc, du petit bouquin « Premières mesures révolutionnaires », je vous propose une lecture personnelle qui privilégie ce qui m'a plu et paru utile dans ce livre, en laissant un peu de côté les désaccords ou les choses qui m'ont agacé. Alors, de quoi ça cause? Comme Eric l'indiquait, Éric Hazan est aussi l'éditeur de L'Insurrection qui vient, et c'est un livre qui dit s'inscrire dans la suite de ce bouquin. Il invite à penser l'après-insurrection. Il propose en fait de réfléchir à cette question, une fois la révolution advenue, comment empêcher la contre-insurrection, le retour à la normale, entre guillemets. Quelles mesures concrètes doivent être prises sans attendre pour rendre en fait le processus irréversible? Donc il s'agit d'éviter à tout prix ce qu'ils appellent le cycle des révolutions ratées qu'on connaît bien, c'est-à-dire on a un processus révolutionnaire, un gouvernement provisoire qui est mis en place, des élections et puis un retour à la réaction, enfin au régime antérieur. Donc l'idée, c'est de trouver les moyens de devenir ingouvernable et surtout de le rester, nous disent les auteurs. Et pour cela, il faut être prêt, avoir anticipé, réfléchi, en tirant les enseignements des précédentes révolutions pour ne pas se faire avoir. Donc les auteurs ne vont pas proposer un programme tout ficelé, mais tracer un peu la voie, d'esquisser des pistes et penser donc les premières mesures révolutionnaires indispensables pour que le renversement soit durable et définitif. Un beau programme quand même.
N'est-ce pas ?
Donc le livre, il est structuré en 3 chapitres. Le premier est intitulé « On a raison de se révolter ». Celui-là va nous rappeler rapidement combien l'organisation sociale et économique actuelle est un régime d'oppression profondément injuste, invivable, insupportable, etc. etc. On peut multiplier les qualificatifs. Il n'apporte pas le bien-être promis, il ne garantit pas la paix qu'il est censé faire régner, il n'a rien de démocratique puisque nulle part le pouvoir n'appartient au peuple. Donc on a par conséquent, fichtrement, raison de se révolter. On a raison. Et d'après les auteurs, les conditions sont d'ailleurs aujourd'hui réunies pour un soulèvement et un blocage général du système. Donc dans cette optique, le deuxième chapitre, qui est intitulé « Créer l'irréversible » et qui est en fait le chapitre central du bouquin, va lister les premières mesures nécessaires à prendre pour créer justement l'irréversible. Alors je ne vais pas toutes les présenter puisque ce serait un petit peu long, mais je vais vous donner quelques exemples de mesures indispensable au renversement définitif et irréversible du système. Donc une des premières mesures, c'est notamment rendre les gouvernants actuels incapables d'agir ou de réagir. Et pour cela, les empêcher de se réunir, les maintenir dispersés en occupant les lieux de pouvoir, des lieux de pouvoir qui seront utilisés pour des fins collectives utiles, autres. Par exemple, on pourrait en faire des crèches, des hammams ou des cantines collectives. Autre moyen d'empêcher les gouvernements d'agir, ça peut être couper leur ligne de communication, etc., etc. Et de cette manière, pour les auteurs, on assistera à une évaporation du pouvoir, en les empêchant de se réunir et de se retrouver là où ils ont l'habitude de se retrouver. Autre série de mesures, ce seront toutes celles qui permettront de supprimer le salariat et de rendre l'argent inutile. Si, par exemple, dans les premiers temps, enfin, si notamment dans les premiers temps du processus révolutionnaire, l'argent des riches pourra être redistribué vers les plus pauvres, il est en effet indispensable pour les auteurs, pour empêcher le retour au système ancien, que l'organisation de la vie collective assure rapidement à chacun son existence et que l'on puisse du coup se passer totalement d'argent. Alors eux, ils expliquent que... il n'est pas nécessaire ni souhaitable de décréter une suppression complète de l'argent, parce que ça risque de susciter des inquiétudes, des protestations fortes, et puis nourrir la peur du chaos chez les gens. Mais par contre, si on le rend inutile en proposant gratuitement des cantines de quartier, loyer, eau, gaz, électricité, livres, théâtre, films, etc., etc., cinéma, musique, voilà, bah il deviendra du coup complètement marginal. Donc ils rejettent, dans cette optique-là, ils vont rejeter le projet de revenu universel garanti, qui est un projet qu'on entend souvent à gauche, en ce que ce projet de revenu universel garanti suppose un État fort, et puis que ben, du coup, il ne va pas renvoyer l'argent aux marges, puisqu'il va préserver le système économique en place. Toujours dans l'idée de supprimer le salariat et de rendre l'argent inutile, ils vont essayer de développer des arguments que j'ai trouvé pas inintéressants à ceux qui rétorqueraient « Oui, mais bon, si on peut choisir de vivre sans travailler, plus personne ne voudra travailler. » Là, ils disent, un des arguments, c'est par exemple que y a déjà pas mal de gens, enfin pas mal, peut-être de moins en moins, mais il y a des gens qui éprouvent aujourd'hui du plaisir à faire leur travail, et que si ils le choisissent librement dans un contexte où il n'y aura plus de supérieur hiérarchique, etc., de procédures emmerdantes, le plaisir sera d'autant plus grand. Autre argument, c'est qu'avec la fin du capitalisme, la quantité globale de travail diminuera parce que va disparaître tout un tas d'emplois, par exemple dans la publicité, la com, l'évaluation, le contrôle, la police, qui ne serviront plus à rien. Puis il y aura plein de gens qui auront en gros plus rien à faire et qui seront bien contents de proposer leur temps à des choses plus utiles. Et puis alors un des éléments compliqués quand on pense cette question du travail non salarié sans contrainte, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les travaux pénibles, salissants ou fastidieux. Et là, eux, ils gagent que si ceux-ci sont partagés par tous librement, parce qu'à l'échelle du quartier ou du village, le sens de ces tâches essentielles s'impose à tous, il n'y aura pas de souci, ou en tout cas pas d'opposition importante à assurer collectivement la prise en charge de ces tâches. Alors après, on a aussi des mesures proposées pour restaurer la prise que les hommes ont perdue sur leurs conditions immédiates d'existence. Ce sont des mesures qui vont viser par exemple essentiellement à répartir l'essentiel des décisions collectives à l'échelon local, puisque pour les auteurs, c'est à une échelle locale, dans le quartier ou dans les villages, que les questions collectives doivent être traitées. Car, je les cite, c'est à une échelle localisée que peut émerger une nouvelle façon collective de mettre en adéquation les besoins et moyens de les satisfaire. C'est là que des idées neuves et des solutions inattendues peuvent émerger. Par ailleurs, les auteurs proposent de penser les manières de s'entendre pour régler les questions collectives dans ce cadre. Alors, il y a quelques pistes qui sont esquissées. Pour, par exemple, éviter de revenir à des assemblées type AG ou type fonctionnement des assemblées parlementaires, etc. Il y a aussi des mesures qui sont pensées pour régler les questions qui se posent à l'échelle d'un pays dans son ensemble. Par exemple, la question du démantèlement nucléaire, des grandes voies de transport, des moyens d'information, etc. Donc là, eux, ils sont plutôt contre la mise en place d'assemblées d'élus, mais l'idée, c'est de plutôt privilégier des groupes de travail composés volontairement de ceux et celles qui ont envie de participer. Ça peut être les gens qui travaillent dans ces domaines-là, par exemple pour le champ du nucléaire, les gens qui travaillent dans les entreprises, les gens qui sont intéressés par la question. L'idée, c'est qu'il y ait un roulement maximum, qu'une personne ne reste pas dans ces groupes de travail de manière... trop longue, quelqu'un ou quelques-uns qui coordonneraient le travail de groupe, et puis la possibilité aussi d'inviter des spécialistes de ces questions, tout en ayant, tout en portant une attention à ce que les spécialistes ne confisquent pas le pouvoir et restent là simplement pour dialoguer, à égalité avec les personnes intéressées. Puis alors, pour garantir que les décisions qui soient prises soient pas des décisions insensé ou irréalisable. L'idée, c'est de l'idée, ce serait de faire que les modes d'application des décisions, c'est-à-dire le fait que les personnes qui s'impliquent dans le groupe de travail, non, je sais plus ce que je veux dire là. J'ai perdu le fil. Comme ça s'agite dans le studio. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Vous lirez vos bouquins. Donc, qu'est-ce que je disais ? Voilà. Bon, une série de mesures. Et puis, pour terminer, une lecture un peu plus personnelle, comme je le disais. Ce qui m'a plu, moi, dans ce livre, c'est, c'est l'enthousiasme et la joie que j'ai pu ressentir à la lecture de certains passages. Le livre part du principe qu'une insurrection est imminente, de l'ordre de l'évidence, et que celle-ci viendra mettre à bas le capitalisme, et qu'il faut donc se préparer pour éviter, dans les jours qui suivront, une contre-révolution, un retour à l'ancien régime. Et du coup, l'insurrection apparaît ainsi dans l'ordre des choses probables, pensables, tout à fait souhaitables. Et déjà, postuler, penser une révolution proche, à venir, ça fait du bien. Ça va à contre-courant du fatalisme et du désenchantement politique ambiant. Je suis en effet tout à fait convaincue que nous avons besoin de visions positives pour combattre ce sentiment d'impuissance politique qui tue nos capacités de mobilisation collective. Et c'est en cela que le livre de Hazan et Camus est un livre utile, parce que plus nous disposerons d'alternatives et de pistes politiques concrètes, les plus concrètes possibles pour penser la sortie du capitalisme, plus les changements nous paraîtront à portée de main. Donc tout ce qui va dans ce sens me paraît intéressant et utile. Ensuite, je trouve que l'idée défendue par les auteurs, selon laquelle il est important de préparer ici et maintenant les mesures à prendre pour éviter une contre-révolution, l'idée de s'organiser, d'échanger, de construire un plan pour rendre donc irréversible la transformation sociale me paraît aussi fondamentale, parce que c'est vrai que les échecs sont des mobilisateurs. Il est donc important de les éviter au maximum, et pour cela d'avoir une vision claire de la direction à donner et des objectifs à atteindre, ainsi que de la manière de s'y prendre. Et puis, alors les auteurs, je le disais, je crois, en introduction, enfin au début, se défendent par ailleurs d'avoir écrit un programme complètement ficelé. L'idée, c'est plutôt de présenter quelque chose qui doit engager les débats et la discussion. Et c'est vrai que toutes les propositions qu'ils formulent sont à la limite trop rapides, trop courtes, donc insuffisantes, et méritent d'être discutées, soumises à une réflexion approfondie et rigoureuse pour en saisir les aspects problématiques et les limites. Et du coup, moi je trouve que ça donne envie de creuser, de se retrouver, de se réunir pour travailler chacune des pistes esquissées. Par exemple, je trouve qu'il y a une vision un peu de l'homme, de l'action humaine, peut-être un peu désincarnée, un peu bisounours, un peu comme si, dans leur écrit, qui mériterait d'être discuté. On a un peu l'impression que la bonne volonté suffira, quoi, en gros. Et puis qu'ils ont aussi une grande confiance dans la capacité d'autorégulation collective, un petit peu comme si le fait d'avoir mis à bas le capitalisme suffisait à faire disparaître les rapports de domination et de pouvoir. Du coup, c'est vrai que toutes les questions de violence dans les collectifs, de rapports de pouvoir et de domination entre hommes-femmes ou de classe sont assez absentes de leur réflexion. Et puis du coup, comme c'est pas au centre de leur travail, ils pensent pas forcément les règles de fonctionnement collectif, les modalités de faire ensemble à mettre en place pour assurer l'égale participation de toutes et de tous à la chose commune, pour annuler, limiter au maximum les rapports de pouvoir. Et bref, garantir ainsi une égalité politique réelle. Donc ça par exemple, ça me semble être quelque chose qui mériterait d'être travaillé. Donc du coup, ça fait réagir, cogiter. Et du coup, c'est aussi positif. C'était une présentation du livre « Première mesure révolutionnaire ».
Est-ce que je peux me permettre de te demander à quel niveau il pense en fait ça ? À quel niveau ils pensent cette insurrection ? Est-ce que c'est quelque chose de mondial ou à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une région ?
Alors là, ils le pensent, si tu veux, plutôt pour le cas français. Mais en fait, le pari, c'est de dire que de toute façon, là, l'effet domino jouera, quoi. Qu'il suffit quelque chose parte de quelque part, et puis le processus insurrectionnel peut rentrer, tu vois, en marche un peu partout.
Dans,
voilà,
dans le monde entier, quoi.
Alors après, c'est vrai que ce que je disais un petit peu sur la fin, il y a un aspect un petit peu prophétique dans ils partent du principe que ça va advenir. D'ailleurs, la quatrième de couve, c'est dit, enfin la quatrième de couverture écrit, il faut faire vite, le vent de la révolte parcourt le monde et le domino français ne va pas tarder, comme bien d'autres avant lui, à tomber. Donc ils partent du principe que ça arrive. C'est, en soi, ça fait du bien. Après, moi, j'ai envie de dire, peu importe s'ils ont tort ou raison. Enfin, l'important. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé utile, voilà, c'est que ça fait du bien et que ça permet de.
De le rendre possible.
Ouais, de le rendre possible, pensable, donc possible. Et voilà, exactement.
Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui courbe à nos pères, car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un pur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduit au labeur qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance, c'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un pur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. L'État nous écrase d'impôts, il faut payer, ses juges s'apicaillent. Et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre, on nous mitraille. Les maîtres ont changé sans foi, c'est le jeu de la démocratie. Quels que soient ceux qui font les lois, c'est toujours la même supercherie. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un pur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, on nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie. Nous ne possédons rien de rien, nous avons horreur de la guerre. Voleurs, défendez votre bien, ce n'est pas à nous de le faire. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un pur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
toujours sur Radio Canu. Donc pendant que Eric se rappelle ses jeunes années avec la chanson de René Binamé, Révolte, on va pouvoir passer à la suite.
Et donc c'est la chronique auto, c'est ça.
C'est ça, Fabien, c'était le lancement, c'est pour toi.
Alors, de quoi il va être question ? Il va être question, comme je disais tout à l'heure en intro, du fait que l'ordre peut naître du désordre. Alors, je vous préviens tout de suite que cette chronique va se vouloir un peu polémique, dans le sens où l'une des idées en fait de cette chronique, c'était de parler d'autre chose que ce qu'on connaît, nous, de l'auto-organisation, de l'autonomie, et de voir en fait que ce concept, il peut être utilisé par d'autres penseurs, entre guillemets, et c'est un peu le cas ce soir. Alors, si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé déjà donc plusieurs fois de l'auto-organisation et je vous avais dit que les éléments, à n'importe quel niveau, que ce soit au niveau atomique ou à un niveau social, humain, ils s'organisent, ces éléments. Et donc, le principe de cette organisation, elle est soit guidée, imposée, d'accord, ou alors elle est spontanée. Et dans ce dernier cas, on va parler donc d'autonomie, d'auto-organisation, et les éléments sont à l'origine ou sont à l'initiative de ce qui va les contraindre, de ce qui va devenir en fait des règles, des lois, des propriétés, tout ce que vous voulez. Et je vous avais déjà parlé d'Atlan dans les années 70, qui a fait de la biologie des systèmes autonomes et qui avait constaté en fait que l'organisation des éléments, elle était assez complexe. Et il a développé en fait une théorie dans laquelle il expliquait en fait que de ces éléments très complexes, il pouvait y avoir une émergence spontanée d'un ordre collectif, donc à partir de ces entités qui sont en interaction plus ou moins variable. C'est donc du bruit, et de ce bruit naît en fait un ordre. C'est ce qu'il appelle la complexité par le bruit. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-Pierre Dupuis, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ordre et désordre » et qui part en fait de ces théories auto-organisationnelles de la biologie, donc des théories de Atlan et notamment de cette complexité par le bruit. Et il va s'interroger en fait sur un éventuel parallèle qu'on peut faire avec l'auto-institution du social. Alors là, je vais le citer. Lui, il dit que des théories scientifiques soient aujourd'hui amenées à prendre des formes abstraites, paradoxales et à recourir à des catégories de connaissances hétérodoxes et en soient un fait remarquable. Ce qui est plus remarquable encore, c'est que ces formes abstraites sont homomorphes à celles qui structurent les représentations du lien social élaborées par les grands penseurs de la modernité depuis le XVIIe siècle environ, c'est-à-dire à partir du moment où surgit la question de l'auto-organisation de la société. C'est le moment où les hommes reconnaissent ne plus recevoir de l'extérieur, d'une réalité transcendante, d'une divinité, les principes et les règles génératrices de l'ordre social. Les hommes désormais savent ou croient savoir que la société est le produit de leurs propres actes et que l'ordre social ne dépend que d'eux. Donc en d'autres termes, ce qu'il dit, c'est que ce principe d'organisation va naître de la prise de conscience que l'ordre social ne dépend que de l'humain. Et il ne va plus dépendre en fait d'un dieu et d'un état. Donc c'est une certaine forme en fait, une certaine forme d'émancipation. Finalement, c'est l'émancipation de l'humain par rapport à la divinité finalement. Donc il se place dans un paradigme qu'il appelle l'autoréférence et dans lequel l'être autonome n'a d'autre cause et d'autres effets que lui-même. Il n'est donc le produit d'aucun projet extérieur. Donc ça, c'est important. C'est la pensée centrale de l'auto-organisation, c'est qu'il n'y a rien qui contraint, en fait. Il n'y a pas un dieu, il n'y a pas une institution, il n'y a pas un État. Ce sont les individus, en fait, qui s'auto-organisent et qui, de cette ordre, que le, finalement, le bruit, et c'est de ça dont il va parler, le bruit de ces individus va naître, en fait, une forme d'organisation. Et donc, alors c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui va vous faire bondir, c'est que selon lui, le modèle politique, le modèle même philosophique et politique qui répond le mieux à ces descriptions, c'est le libéralisme. Alors pourquoi ? Parce qu'il dit que les humains qui agissent, que ce sont les humains qui agissent la société et non une quelconque entité extérieure. Et cette société est libérée de toute forme d'hétéronomie religieuse et politique. L'ordre collectif doit rester indépendant de la volonté des individus, ce qui permet à l'individu de s'émanciper de la tutelle du pouvoir sacré. Donc en fait, lui, il voit le libéralisme en fait comme étant une forme d'émancipation au début du XXe siècle, d'émancipation par rapport à la religion en fait qui imposait en fait avant aux humains en fait de s'organiser. Alors là où ça va commencer à basculer, c'est qu'il va reprendre en fait les théories de Hayek, qui a un prix Nobel d'économie, et d'Adam Smith, que vous connaissez peut-être mieux, pour expliquer que l'ordre collectif va naître du désordre individuel. Alors pour ces économistes, les actions individuelles sont guidées par le seul intérêt privé et la recherche du plus grand avantage matériel. Et c'est ça qui qualifie de désordre. Ces actions, donc ces actions individuelles, ce désordre ne vise pas l'ordre collectif qui pourtant va émerger de façon purement automatique. Et donc c'est en ça qu'il va parler d'un principe d'ordre qui va émerger à partir du désordre. Donc le désordre, c'est les individus, et l'ordre, c'est l'ordre social. Alors pour moi, c'est plutôt une vision assez négative en fait de l'humain, parce que qui nourrit cette pensée, parce que en fait elle oppose les conséquences individuelles aux conséquences sociales. Les conséquences individuelles, c'est quoi? C'est l'envie, c'est l'appât du gain, la vanité. Et donc ça, c'est les caractéristiques de l'individu. Alors que les conséquences sociales, eh bien, c'est un peu le bien, c'est les bienfaits de l'individu par l'organisation sociale. Et donc là, on voit en fait les conséquences en fait d'une telle pensée. Et l'une des conséquences, par exemple, c'est toutes les théories des libertariens, où on va avoir plus du tout en fait d'emprise de l'État, où en fait la société va s'auto-organiser, mais de façon anarchique au sens péjoratif du terme.
Ça tombe bien que tu parles ça. Je fais juste Jeffrey Bezos, dont j'ai parlé en début, est un libertarien notoire.
Ah ben voilà. Voilà. Alors à mon avis, enfin à mon sens, Jean-Pierre Dupuy, en fait, il oublie plusieurs informations importantes. Par exemple, il oublie que les individus, ils peuvent s'organiser en fait de façon consciente, ils peuvent mettre en place des propres lois sans avoir des intentions individuelles négatives. Donc je pense que ça, il l'oublie de façon assez importante, c'est-à-dire que c'est pas forcément un désordre en fait qui est à la base en fait de l'ordre dont il parle. Et puis la deuxième chose qui me paraît importante, c'est que l'histoire elle a montré que les sociétés pouvaient s'auto-transformer par des processus révolutionnaires dans lesquels c'était pas le désordre qui prônait, mais une auto-organisation. Et donc à la prochaine chronique, auto, je vous parlerai de Cornelius Castoriadis, qui lui en fait va s'interroger aussi sur l'auto-organisation et sur l'autogestion, mais va le faire dans ce processus révolutionnaire, et donc aura une lecture totalement différente en fait de ce Jean-Pierre Dupuy, qui, bon, ben voilà, on ne rejoint pas forcément ses opinions, mais je trouve que c'est intéressant de voir que des gens qui sont un peu flous, parce qu'en fait, on ne sait pas bien s'il est de droite ou de gauche, ce type, mais du coup, on a plutôt tendance à croire qu'il est de droite, et on voit finalement que ses principes peuvent être repris en fait par les deux camps, et je trouvais que, et d'ailleurs, l'exemple des libertariens est très caractéristique, et je trouvais que c'était aussi intéressant d'en parler ce soir.
Et est-ce que du coup, il y a une prise en compte chez ce type-là de... Enfin, parce que moi, ce que j'aurais envie de rétorquer à ce discours-là, c'est qu'il y a une autorégulation, mais qui est sur le mode du laisser-faire économique, et on ne prend pas du tout en compte le fait qu'il y en a qui aient les propriétés de production, enfin, la propriété privée sur les moyens de production, et d'autres qui sont obligés de vendre leur force de travail, enfin, c'est les bases un peu du marxisme, et que du coup, c'est ça qui va, pour le coup, faire la différence peut-être entre un Castoriadis, c'est prendre en compte le fait qu'au-delà de ce thème de l'autorégulation, si au départ il y a des conditions totalement différentes, en fait, c'est juste la liberté donnée aux puissants d'écraser les faibles. Et Jeffrey Bezos, le PDG de c'est quoi la boîte déjà
dont Amazon.
Amazon, voilà. On est un bon exemple, il me semble. Du coup.
Ouais, alors dans ce que j'ai lu, non, il en prend pas compte, et même je dirais que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ça donne l'impression en fait que les individus en fait ils peuvent se débrouiller tout seuls et que c'est très bien en fait, quel que soit finalement le terreau que ça produit, une telle fausse organisation, et eh bien c'est très bien parce que de toute façon de ce désordre, qui est bien. Il est bien. Il justifie. Il est même. On peut le justifier parce que justement, il va créer de l'ordre. Mmh. Et donc, je trouve que c'est un peu dégueulasse en fait. Et alors, je connais pas. Hein, effectivement, j'ai pas lu bien évidemment tout ce qu'il a écrit, mais voilà, on a l'impression que non.
Ouais, d'accord. Mmh. Ok.
Bon, voilà, on va peut-être s'écouter une dernière musique avant de laisser la place à nos camarades de la causerie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Est-ce que vous savez déjà peut-être annoncer une ou deux choses?
C'était mouvement étudiant, je crois, quand c'était dit.
Non, c'est dans 15 jours.
C'est ça. Dans 15 jours, ça?
Bon, eh bien, la semaine prochaine, une autre émission en tout cas. Nous, on sera là sur Radio Canus. C'était Angle Mort. À bientôt.
Pour leur décompte, pour les victimes, rien n'est un.